Vous écoutez France Culture.
Surpris par, qui es-tu, toi que j'entends si indistinctement?
La nuit.
Toi qui me fais aller de l'avant.
Vous avez l'étoffe d'un chef, Smith. Pouvons-nous compter sur vous?
Quelle est cette voix qui parle en moi? Qui me guide vers l'excellence.
Début des contractions, le 20 septembre 62 à 1h. Admission maternité, le 20 septembre 62 à 4h. Rupture période des os, le 20 septembre 62 à 19h40. Durée de la période de dilatation, 14h. Durée de la période d'expulsion, 1h. Durée de la délivrance, 33 secondes. Durée totale de l'accouchement, 15h40. Perte de sang, 200 cc. Poids du placenta, 900 g, forme ovale. Cordon, longueur 60 cm.
Nous devons tout recommencer à zéro. Prendre un nouveau départ. Ici, tous les bienfaits de la terre sont autour de nous. Personne ne grandit pauvre.
Oui, bonjour madame. Je suis dans la rue depuis ce matin, je cherche à manger. Où est-ce qu'on peut manger?
Vous voulez une année à Belleville, c'est jusqu'à 1h.
18h. Accueil en urgence de mademoiselle Laetitia. Elle est complètement paumée et biturée, malgré le règlement concernant l'alcool. Je l'accueille pour la nuit, car je ne me sens pas de la laisser dans un tel état à la rue, et enceinte de 5 mois de surcroît. 19h30. Brigitte se présente au CHRS pour un accueil d'urgence. C'est l'ancienne concubine de Monsieur Carton à qui elle a sectionné un bout de doigt d'un coup de dent. Madame est accompagnée d'un chiot, condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le coup de dent. 21h, accueil en urgence de Monsieur Stéphane, 40 ans, qui dort dans sa voiture depuis 15 jours. Réponse, oui, mais pas avant vendredi.
Ici, il y a de la bonne terre pour tous. Et elle ne coûte que le labeur que l'on y accomplit. Nous pourrons bâtir une vraie communauté. Le travail et l'autonomie seront nos vertus. Nous n'aurons pas de seigneurs qui nous écraseront avec des impôts ou nous extorqueront le fruit de notre labeur.
PV 425, 23h30, prise de consigne au poste. 23h30 à 0h15, ronde circonscription de Clamart. À 0h15, en compagnie de la TV 428, interpellation des individus Flanec et Cornu du Plessis Robinson. De 0h55 à 1h45, ronde sur la plaine. 1h45 à 3h45, ronde générale. 3h45, interpellation des nommés Girardin et Ray en compagnie de la TV 428. 5h55 à 6h15, ronde circonscription Clamart, Haut-Clamart et Plessis-Robinson.
Capitaine, on n'a plus assez de fonds pour continuer. On va accoster.
Nul ne mangera la récolte de son voisin dans l'indifférence ou ne volera ce qui a été mis de côté. Les hommes ne se dépouilleront pas les uns les autres.
Lundi 21 janvier. Retour d'Hervé vers 7h15 ce matin. Sortira de nouveau le week-end du 8 février. Parents très contents. Retour de Fabrice avec l'ambulance vers 9h15. Une lettre des parents, sympa. Retour de Nathalie avec ses parents à 10h environ. Ils vont partir pour 2 semaines. Si besoin, les joindre sur leur portable. Ils reprendront Nathalie dans 2 semaines comme d'habitude, donc au vendredi 1er février. Retour de Frédéric avec ses parents à 10h30. Ils se sont plaints que Frédéric ait les pieds glacés vendredi quand ils sont venus le chercher. J'ai dit qu'il faisait vraiment froid. Gros chaussons à prévoir ?
Faisons demi-tour, capitaine. Et rassemblons plus d'hommes. Nous sommes perdus.
Les autochtones s'enfuient !
Laissez-les !
Sont indispensables à un commissaire de police, petit 1, un journal agenda ou main courante sur lequel le commissaire de police tient note de ses opérations quotidiennes, petit 2, un répertoire servant à l'enregistrement et à l'analyse de ses procès-verbaux, petit 3, un registre d'ordre sur lequel chaque commissaire de police inscrit l'analyse de différents actes, documents, lettres qui lui sont adressés concernant le service. Circulaire ministérielle 8 février 1855, répertoire général alphabétique de droit français, 1885-1920, commissaire de police.
Samedi 24 février 1730, 1h. Antoinette Patouillet, fille mineure de 18 ans, vendant des légumes, demeurante place Maubert chez la femme Patouillet, sa mère, laquelle nous a déclaré, il y a 2 ans, le nommé Charles Moulin dit Leblon, compagnon plombier demeurant rue Galante aux Trois Bouteilles, qui fréquemment, lorsqu'il ne travaille pas, se tient sur le pavé de la place Maubert, et qui la connaissait, lui faisait des propositions de mariage, qu'elle crut, ce qu'il lui disait, âgé de 35 ans, était sincère, et s'y attacha, et que sous ce prétexte, il la fit plusieurs fois aller dans la chambre de lui, et un jour la suborna et jouit d'elle. Que depuis ce temps, il l'a engagée à vivre avec lui, ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de l'été dernier, qu'il lui a ôté la clé de sa chambre, et, comme elle est enceinte de ses œuvres de 8 mois, et, comme il lui a promis de l'épouser, ce qu'il a promis même en présence de plusieurs personnes, il lui refuse tous les secours que son état exige, et qu'elle a intérêt de se pourvoir pour lui payer les dommages et intérêts qui résultent de la séduction et du déshonneur où il l'a entraînée. Commissaire Desormeaux, ANY, 11-695.
Arlette Farge, vous êtes historienne, vous avez travaillé sur les mains courantes policières, notamment dans votre ouvrage Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle. Pourquoi vous intéressez-vous à ce type de document ?
Je crois que je m'intéresse à ce type de document parce que ce sont vraiment des documents de peu, c'est-à-dire qui concernent en général des gens des classes les plus défavorisées qui viennent porter plainte, qui ont eu un incident dans la rue, qu'il soit d'ordre matériel, une chute ou une dispute, une rixe. Et donc on vient rendre compte auprès du commissaire de police du quartier de ce qui est arrivé. Et donc si je m'y intéresse aussi, c'est parce que c'est une façon de connaître cette population qui ne savait pas écrire. Il faut signer une plainte. Et donc, on voit les croix trembler en bas de la croix qui est un signe de signature.
Est-ce que ça raconte donc la vie à cette époque-là ? Il y a des thèmes qui reviennent, la maltraitance vis-à-vis
bien
des
sûr,
femmes, par exemple.
Bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, on entre dans un des lieux de l'histoire qui est le plus méconnu, c'est-à-dire l'intime, les souffrances, les violences, comme disait Michel Foucault, le bruit de dessous l'histoire, c'est-à-dire ce que nous n'apprenons pas dans les livres d'histoire, parce qu'on apprend les grands événements, et puis voilà, les batailles, la diplomatie. Mais on ne connaît pas ces archives minuscules qui sont justement ces liasses et ces liasses conservées aux archives nationales où lorsqu'on ouvre une liasse se déploie devant vous une espèce de flux de vie extraordinaire et aussi des paysages, c'est-à-dire que des paysages sociaux.
24 décembre 1799, 4 heures après-midi, commissaire Joron, ANY, 98-85. Est comparue Antoinette Savy, dite Henriette, femme de chambre de Madame la Comtesse de Polignac, demeurant actuellement chez la Dame Mélot, sage-femme, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. a fait déclaration de grossesse et nous dit qu'elle n'était point née pour le service, qu'appartenant à des parents très connus et dans l'aisance, elle a reçu une éducation au-dessus de son état actuel, que des circonstances fâcheuses ont réduit ses parents dans l'indigence de sorte qu'elle s'est trouvée dans la nécessité de prendre une place de femme de charge auprès d'une femme de condition, qu'il y a 2 ans, elle est entrée au service de la comtesse de Polignac, que dans son hôtel, rue Saint-Avoy, demeure monsieur le comte d'Aspey et madame la comtesse d'Aspey, sa fille, qu'il y a 1 an, le comte d'Aspey a commencé à lui tenir des propos de galanterie, qu'elle les a méprisés en lui disant qu'elle n'était pas entrée chez la comtesse de Polignac pour y trouver son déshonneur et qu'elle n'était point faite pour le libertinage, que le comte devait respecter ses malheurs et que d'ailleurs il avait une jeune et jolie femme à laquelle il devait se fixer, qu'il ait de notoriété dans la maison, qu'il ne cessa de la poursuivre de ses galanteries, qu'un jour d'avril à minuit, sortant de la chambre de monsieur de Polignac et étant dans l'escalier un flambeau à la main, le comte d'Aspey l'attendit.
Est-ce que les mots qu'on peut lire, qu'on peut entendre, sont les mots des gens qui viennent en quelque sorte au commissariat ou est-ce que c'est réécrit par les policiers?
Alors, ce sont les deux. En fait, le greffier doit prendre à la hâte, et il a des instructions pour ça, doit prendre très très rapidement le plus d'informations possible. Et par moment, il est évident qu'il en laisse passer, il ne peut pas tout, il ne peut pas aller aussi vite. Mais quand il s'agit d'expressions qui sont vraiment populaires, que ce soit les injures ou d'autres types d'expressions, il est obligé par sa profession de les recopier. Donc on a, voilà, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas un véritable reflet du réel. Hein. Ouvrir ses mains courantes, ce n'est pas forcément la réalité. Celui qui porte plainte en plus... il a quand même intérêt à se faire plaindre. Donc, il y a déjà un jeu de sa part. Et puis, il y a le greffier qui doit suivre le mieux possible. Donc, quand on est historienne, c'est la rigueur de l'historienne. C'est vraiment de tout cela, c'est de travailler au plus près pour donner du sens, faire une interprétation qui soit valable et non pas raconter des anecdotes. Sans quoi, on peut écrire des livres d'anecdotes avec ça.
Elle voulut monter dans sa chambre au 3e étage. Il l'a prise à bras le corps et l'a portée dans sa chambre à coucher, que là elle s'évanouit et il en fit ce qu'il en voulut. Il en jouit pendant son évanouissement. Elle s'aperçut de son malheur 2 mois après, car elle eut la suppression de ses mois. En avertit le comte qui la turlupina sur cet accident qu'il ne voulut point s'attribuer. Cependant, il eut l'honnêteté de ne pas l'accuser d'avoir pu se livrer à une autre personne. Elle dut le dire à madame de Polignac, qui la plaignit fort, mais ne put obtenir de secours de son gendre, qui l'a totalement abandonnée.
Arlette Farge, quelle est la fonction d'une main courante?
Alors la fonction d'une main courante, c'est la mémoire, mais c'est très étonnant parce que c'est le 18e siècle, on prendra un soin à partir du premier lieutenant général de police Larigny, pendant un soin très très particulier à fixer dans d'infinis détails les textes des mains courantes. C'est-à-dire que ça a une fonction bien sûr de police, de contrôle. Il y a des mains courantes aussi qui sont d'un autre ordre que celui que je vous dis là. Il y a par exemple tous les agents de police ou les inspecteurs de police qu'on a appelé les mouchards, qui sont au coin des rues déguisés, qui écoutent ce qui se dit dans les cafés, sur les places, dans les cabarets, ou bien au jardin des Tuileries, et qui recopient eux aussi à la hâte. D'ailleurs, ils disent aussi leur fatigue de recopier si vite les propos qui sont dits. Et ça va être une main courante qui va faire que peut-être on va espionner tel ou tel étranger, on va emmener à l'hôpital de la Salpêtrière tel ou tel prostitué, etc. Donc ça a une fonction de police et une fonction surtout de contrôle. Et je crois aussi une fonction de cette espèce de déploiement absolu de l'absolutisme, de sonder les âmes et les cœurs, qui est constant, puisque le lieutenant général de police, tous les mardis matins, ira chez le roi lire ce qui a été entendu dans les rues. Donc ces mains courantes, elles ont une utilité. En même temps, ça les fera beaucoup rire. Ils appellent d'ailleurs les gens de Paris les grenouilles. Donc, dites-moi aujourd'hui, monsieur le lieutenant général de police, quelles grenouilles ont coassé dans Paris. Et ça, c'est relaté dans beaucoup de chroniques.
Philippe Artière, vous êtes historien. Quelle est la forme de l'écriture main courante?
C'est une forme qui peu à peu s'affine, mais en tout cas pour le 19e siècle, on pourrait dire qu'elle est assez personnelle. À savoir que ces policiers ne remplissent pas des formulaires, ils décrivent, et c'est ce qui est intéressant pour nous, ils décrivent ce qu'ils voient ou ce qu'ils constatent avec leurs propres mots. On est, pour la période des années 1890, je pense spécifiquement à des mains courantes du 13e arrondissement de Paris, eh bien, on est dans un moment où les policiers écrivent encore avec leurs propres mots. Après, on viendra avec des formulaires, donc plutôt de l'ordre de la case.
11h50, la TV 425 se rend rue des Écoles. Sur place, M. Brillant Jean, qui déclare « Nous sommes divorcés avec mon épouse et j'ai la garde de ma fille pour le week-end. » Mon épouse vous a appelé car elle ne veut pas me confier ma fille. Monsieur Brillant me présente le compte-rendu du jugement de divorce qui a justifié la garde de l'enfant pour le week-end. J'ai avisé Madame Brillant qu'elle devait laisser sa fille à son ex-mari. À 12h45, Monsieur Brillant se présente au poste et me déclare qu'après notre intervention, son ex-épouse a fait du scandale devant les parents d'élèves et du directeur de l'école. Devant ces fêtes, et ne voulant pas se donner en spectacle, il a laissé sa fille à son épouse. Monsieur Brillant a désiré venir faire une main courante car son épouse est allée déposer plainte au poste de gendarmerie.
Jean-François Lahaye, votre ouvrage s'appelle « Les nuits de la main courante ». Mais alors, quelle définition vous donnez de la main courante ?
La main courante, c'est, on peut retenir la définition de la police, tout simplement. 1850, un grand registre... de papier et carton, 80 cm de haut, 70 cm de large, à côté d'autres registres, dans les commissariats parisiens, il y a 80 commissariats à Paris, à côté du registre des marchés, les registres des maisons closes, le registre des étrangers, les registres des travailleurs étrangers. Et donc, dans ce registre, il y a des colonnes, des traits, des numéros d'ordre, des numéros alphabétiques, et on se contente d'enregistrer les plaintes de quartier. Donc c'est un espace d'accueil, de plaintes, de déclarations. J'ai pris ce modèle de la main courante de police pour réfléchir à des lieux d'écriture, à des lieux de prise d'écriture qui lui ressemblaient et qui étaient aussi énigmatiques. Donc c'est son décahier des écritures dans les institutions sociales, dans les hôpitaux, dans les centres d'accueil, dans les mairies, qu'on trouve un peu partout. C'est des cahiers manuscrits par 2, 3, 4, 5 personnes qui notent au jour le jour des incidents, des rondes, des visites, des contrôles d'étage, des états de santé. Donc c'est eu égard à une population, eu égard à un flux, eu égard à des gens qui viennent demander de l'aide, du secours. On prend des notes sur ce qu'il s'est passé, la demande, et on essaye de contrôler, de maîtriser un peu qu'est-ce qui se passe dans ce service, dans des relations d'aide, en quelque sorte. Très souvent, l'idée de main courante s'adosse à l'idée de prise en charge. Dès qu'il y a prise en charge, dans le sens juridique du terme, prendre en charge quelqu'un, prendre en charge des enfants, des personnes âgées, des jeunes... prendre en charge un problème, une question sociale, dès qu'on a prise en charge, on a écriture. On a besoin de traces, on a besoin d'enregistrement, et on a simultanément des frottements, des disputes, des résistances, et donc les notations sont là pour maîtriser, pour calmer, pour essayer de trouver un ordre logique et raisonnable à ce qui se passe dans tel ou tel service.
Rencontre disciplinaire du 10 janvier avec le collège pour Jules, puis visite à domicile pour Emma. Deuxième rencontre avec Jules. On le laisse chez lui pour aller au collège avec sa mère. Le conseiller d'éducation nous demande de rentrer. La jeune professeure de français réclame une exclusion pour comportement agressif et devoir inacceptable. De quoi s'agit-il ? À la consigne d'un devoir écrit, écrire du merveilleux, Jules a répondu par une espèce de conte de rappeur. Il était une fois un garçon de 19 ans qui sort de tôle et rencontre une voisine d'immeuble. Il lui demande de sortir avec lui, il se roule des pelles et à la fin, il se marie. De plus, Jules a répondu agressivement à la prof qui lui demandait de changer de place. Dans le rapport, il est indiqué qu'il l'a menacé de lui couper la tête. Jules va nier la menace. Le conseiller est très pressé et la mère de Jules va montrer une certaine ambivalence en soutenant son fils. « Je veux voir la prof, ça recommence. » Tout en s'agitant sur l'aspect victime, l'ambiance du quartier, elle en a assez.
Jean-François, à La Haye, il y a parfois des mains courantes écrites par des professionnels qui ressemblent quasiment aussi à des journaux intimes. On pense au chapitre consacré à l'aide à l'enfance dans votre livre.
Oui, là, c'est des moments plus intenses où les professionnels doivent suivre une, deux, trois, plusieurs familles. Par exemple, très souvent, ils ont un mandat pour 3 mois pour suivre une famille qui vient d'arriver. Enfin, et ils ont 3 mois pour faire un bilan au juge. Pour faire un bilan au juge, il faut voir les gens une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et donc, ils écrivent très vite des brouillons pour essayer de constituer une espèce de brouillon biographique familial, les prémices d'une biographie familiale avec les lignes de tension, les lignes de dispute. C'est quoi le problème ?
Reprise des débats à la maison. Je lui dis que le sketch avec le conseiller est malvenu, ne pas soutenir des choses non soutenables. Jules veut sortir acheter une règle pour demain avec des copains. Comme je suis là, madame va tenir une position ferme. Oui pour la règle, non pour les copains. Jules va se montrer trépignant, pleureur, réclamant, gros bébé. Quand je partirai, il poursuivra son scénario. Mais il a accepté auparavant de réécrire le devoir et une lettre d'excuse. 12 janvier. Je rappelle le lendemain et par téléphone, il me lit le nouveau devoir. Il était une fois un garçon, Julios, à qui un monsieur donne un beau dalmatien. En rentrant chez lui, l'enfant s'aperçoit que le chien parle. Ils descendent chez lui, tout le monde parle avec le chien, et là, la télévision vient les filmer. 18 janvier. Finalement, l'entretien au collège avec la prof se déroulera le jeudi, sans moi. En fait, la menace avait eu lieu le vendredi précédent, l'altercation le mardi. Le matin même, Jules a demandé à prendre la parole en cours de géographie pour demander le témoignage de ses camarades contre la menace. D'après la maman, Jules s'est excusé, confondu, et il a reçu 2 jours d'exclusion. Le professeur en aurait réclamé 8.
Attendez, madame Guérin, vous allez me demander du lait devant lui. Viens, Victor, viens.
Je voudrais du lait. Lait.
Voilà, madame Guérin, voilà du lait. Non, Victor, non. Faut le demander. Madame Guérin, je voudrais du lait.
Bien.
Merci, madame Guérin.
Lait. Lait. C'est très bien, Victor.
C'était la première fois qu'il sortait de la bouche de Victor un son articulé. Madame Guérin ne l'entendit point sans la plus vive satisfaction. Pour moi, je fis une réflexion qui diminua de beaucoup à mes yeux l'avantage de ce premier succès. Ce n'était qu'au moment où, désespérant de réussir, Madame Guérin venait de verser le lait dans la tasse que le mot lui avait échappé avec une petite grimace plaintive. Je sentis qu'il ne fallait surtout pas en rester là et j'attendis impatiemment que Victor me réclame à nouveau un bol de lait.
Mardi 22 janvier. Brigitte très agitée au milieu de la matinée. Vers 10h, crise d'énervement. Avec automutilation, se mord, crie, pleure. Perturbée par la visite de sa maman hier. Elle a été conduite dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle se calme. S'est ensuite calmée en fin de matinée. Le médecin a été informé ce matin. Le père de Raymond demande que nous lui mettions les pulsales dans le sac de voyage, car il le prendra régulièrement les week-ends. Retour de Raymond à 17h avec son père. 20h. Frédéric, un comprimé de Théralène donné avant son coucher. Brigitte a reçu un comprimé de paracétamol ce soir au dîner, car elle gémissait, douleur des règles, mais aussi un peu troublée, émue à la visite de sa maman. Philippe n'a pas été rasé ce matin, car le rasoir mécanique l'agresse et le fait saigner, car l'on doit éviter d'utiliser un autre rasoir ne lui appartenant pas par mesure d'hygiène, problème infectieux selon son père. Il sera demandé à sa famille, vendredi, de nous apporter un rasoir électrique pour lui. Noté en page du vendredi 1er février. Merci.
C'est une écriture manuscrite faite de phrases ou non, de mots, de sigles, beaucoup de sigles, beaucoup de sous-entendus. Ce qui caractérise une main courante aussi, c'est son côté incompréhensible à la première lecture. On le lit une fois, on ne comprend rien. On le lit une seconde fois, on commence à déchiffrer un peu. La troisième fois, on comprend mal et on a tous les sigles à déchiffrer et les phrases ne sont pas des phrases. Ce qui nous manque, pour comprendre une main courante, il faut déchiffrer le contexte et non pas le texte. C'est ça le problème, c'est ça la question. Donc beaucoup de ces mains courantes sont abandonnées, ne sont pas lues ni par les historiens ni par les sociologues pour cette raison-là, c'est qu'elles sont tellement incompréhensibles qu'on les laisse de côté. Donc ces écritures ont un intérêt dans le moment de l'action, dans les jours, dans les semaines après l'action, éventuellement un mois après, mais n'ont plus d'intérêt un an, deux ans, trois ans après, parce que ce sont vraiment des écritures qui accompagnent l'action.
Il y a énormément de bruit, il y a un chien qui n'arrête pas de d'aller venir dans l'appartement, il y a une belle chaîne en même temps, et ça fait des bruits pour le passer. Et à force, moi j'arrive pas à dormir, ça fait au moins 3 minutes, je dors pas. Le chien, il bouffe le parquet, il mange le parquet, et on a l'impression qu'il y a des chiens.
7h30, le hall est propre. Revoir la porte du 8e étage, ascenseur bloqué légèrement. À la descente des 13 étages, j'ai nettoyé au 9e et 5e étage. Ampoule 2e, grillée. Passage au bâtiment B et C, RAS. Sauf fenêtre ouverte toute la nuit chez Madame Debout. Il fait pourtant très froid. 8h, Madame Rieux et Madame Marouf viennent pour la fuite au bâtiment A. Voir ce qu'il y a à faire avec plombier. Je leur ai dit que c'est pas à leur charge, le plombier de l'office va passer. Arrangement avec le plombier, car tuyauterie prend dans les appartements aussi. 9h et 10h, permanence. Beaucoup de courriers sans destinataire, des boîtes aux lettres toujours ouvertes, porter le courrier aux étages pour vieilles personnes. Depuis un mois, 20 lettres dont les dons ne correspondent pas. Je cherche à me renseigner, sinon... Retour facteur. Tour, cage, poubelle, RAS. 11h. Le chien du bâtiment C aboie sans cesse. Monsieur Rions est parti, une femme âgée vient demander de faire arrêter le chien. 11h30. Tour des trois bâtiments, trois escaliers. Encore une ampoule enlevée. Stock s'épuise. Je ne vais pas m'amuser à mettre des ampoules comme ça pour qu'on me les prenne. Hier, des locataires... « Il n'y a pas de lumière. » Je leur réponds. « Erreur, il y a de l'électricité, mais par contre, l'ampoule est partie. » J'attends 2 jours pour remettre l'ampoule. Il faut marquer le coup.
Les écritures, c'est un peu comme des serpentins, quoi. C'est... Dans plein d'espaces, il y a des stylos et du papier. Dans énormément d'espaces, il y a des papiers et des stylos. Mais c'est des coups de stylo... plus rapide que la main du pickpocket. C'est un petit coup de crayon, ni vu ni connu. Et dans énormément d'espaces professionnels, il y a des coups de stylo. Mais ils sont tellement innocents, on ne les voit pas, on ne voit rien du tout. Donc le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est de déchiffrer le bien-entendu. Je ne l'écris pas, parce qu'entre nous, on sait. Donc je me contente de mettre 2, 3, 4, 5 mots. On se comprend. Et même parfois un tout petit dessin, un petit croquis, une petite flèche avec... Ça veut dire agrafe. Juste un petit trait avec 2 petits points, ça veut dire agrafe. Bon, d'accord. Donc il y a un énorme travail de codification et donc de décodification à faire, qui est évidemment extrêmement long, parce que les gens ne vous délivrent pas comme ça. Les gens ne vont pas passer des heures à vous traduire leur cahier, les cahiers de main courante.
Le 20 juin, un habitant, Claudel depuis 1995, arrivé d'un bébé. Problème avec certains voisins, sa nouvelle voisine du dessus vient de s'installer, il s'est pris un crachat dans la figure, il est monté pour s'expliquer, ils n'ont pas voulu lui ouvrir. Irrespect, manque d'éducation. Il a fait beaucoup de travaux avant d'arriver, les papiers peints, peinture. Une femme, travaux à George Sand, elle trouve que cela va attirer les jeunes pour faire des bêtises. Les enfants jouent, mais les grands font des dérapages en scooter, dangereux.
Jean-François Lahaye, vous avez passé du temps avec un concierge, un gardien d'immeuble.
Oui. Oui.
Est-ce que ça vous a éclairé sur l'écriture main courante de ce gardien
De façon très étonnante. Plusieurs journées assis dans une loge d'un gardien d'immeuble. J'étais sous une vitre qui correspondait à la chaussée de l'entrée de l'immeuble. Et je voyais le gardien regarder les chaussures, les pieds, on voyait les pieds, les mollets des gens qui passaient. Et il était capable de savoir qui arrivait, même au son des talons. J'étais absolument abasourdi. Alors, il ne le note pas dans sa main courante, mais il identifie 50 mètres avant, vu l'heure, vu la démarche, vu le son, il sait que c'est monsieur ou madame, ou l'enfant, ou l'enfant avec le chien. Et son bureau est couvert de papier.
10 mai. Problème principal égale panne d'ascenseur. Il ne peut plus supporter les marches. Il voudrait habiter dans un bâtiment de 4 étages. Il s'inquiète de la faible hauteur des garde-corps devant les fenêtres. Problème avec un enfant turbulent qui pourrait passer par la fenêtre. Il y a toujours eu problème d'insécurité, mais en 98, il y en avait beaucoup plus. Il voudrait aller dans un new apart. Il trouve injuste de les réserver aux immeubles démolis. Il apprécie la vue. Il aime voir les avions du Bourget.
Alors, tous ces papiers n'ont aucun intérêt. Donc, personne ne les voit. C'est des écritures de petites... C'est des petites mains. Hein, c'est la petite besogne. Sauf que quand on reste avec le gardien le deuxième jour, le troisième jour, et on commence à lui dire « Et le carnet là, on peut le feuilleter ensemble. Et, tel, et là, ce document-là que vous ouvrez sans arrêt... » Lui-même, le gardien, découvre qu'il écrit lui-même plein de choses sans intérêt, mais qui nous intéressent, nous, sociologues, anthropologues ou historiens. Alors, c'est ça la difficulté. On dit que des choses sont ordinaires quand on les oublie. Et appeler ça des archives ordinaires, c'est ça que ça veut dire. C'est que les gens qui manipulent ces archives et qui écrivent ces archives... C'est tellement ordinaire qu'il les oublie. C'est ça qui m'a le plus plu et qui m'étonne toujours aujourd'hui et qui me pousse à aller voir dans des endroits, dans une crèche. Les parents tournent le dos et hop, une petite notation. Dans la journée, il y a des petites notations sur les enfants. Donc ça commence à la crèche et ça finit dans le cahier de liaison des personnes âgées, dans les centres d'accueil des personnes âgées. Il y a un cahier de liaison avec la famille où on s'oblige, les professionnels s'obligent à écrire ce que mamie a fait lundi, mardi, mercredi, pour rendre compte à la famille qui vient le samedi après-midi. On est tous demandeurs d'écriture, de traces. On est tous demandeurs de traces de l'enfant à la naissance jusqu'à la personne âgée, jusqu'à l'hôpital, jusqu'à l'hôpital. Le dimanche, les visites à l'hôpital, les familles n'ont de cesse de demander « Et alors ?» Hier, « Et alors ?» Avant-hier. Plus on veut savoir, plus on individualise, plus les écritures arrivent. Donc il y a une injonction d'écriture qui vient tout autant du bas que du haut. C'est la chose que j'ai découverte de façon la plus étonnante. C'est que la demande vient vraiment d'en bas, quoi.
C'est votre ami, là ?
Mmh.
Donc vous avez deux... Asseyez-vous, madame.
Qui est mon ami, là ?
Non, c'est pas vous, c'est pas vous.
C'est pas vous, c'est pas vous.
Allez.
21h. Je viens d'apprendre par un SDF qui est venu demander un repas à la cuisine qu'il y a un mois, des barquettes de nourriture étaient vendues 2 euros. Il n'a pas voulu en dire plus, mais là, franchement, c'est plus que de l'abus.
Bon. Riz blanc et poulet rôti. Très bien.
Bonne nuit, monsieur.
Allez, courage.
22h, Madame Joie est rentrée saoule, comme d'habitude. Au lieu d'aller se coucher direct, comme elle me l'avait promis, voilà qu'elle a fait un scandale au réfectoire, s'en prend aux autres hébergés, nous menace. Expulsion. Hélas, mais tout le monde l'a prévenu plusieurs fois. Et merde.
À demain. Tout à l'heure, quand j'ai repéré la chambre qui nous a été attribuée, les couloirs étaient propres. Ils sont devenus un cloaque en moins d'une heure. Ça sent la pisse partout, le vomi, les toilettes sont bouchées. Des gars dorment dans les couloirs alors qu'ils sont...
Minuit 15, ronde. Avons surpris le lit 10 en flagrant délit de se droguer. Nous l'avons exclu immédiatement. Il s'agit de HF. Il a quitté le centre aussitôt son forfait découvert. Un peu plus tard dans la nuit, Monsieur Ami a une telle odeur qu'on est obligé de le réveiller pour qu'il prenne une douche et qu'il lave ses chaussettes. Les occupants de ce dortoir n'arrivent pas à dormir.
On vous a prévenu. Attention, couverture. Il y a des puces, des poux et en ce moment une épidémie de gale. On va dormir seulement avec les draps en papier. Et puis on va laisser la fenêtre ouverte toute la nuit parce qu'il y a une odeur de pied insupportable dans la pièce.
Une heure. Je trouve deux femmes dans les toilettes. Une lit, l'autre rêvasse. La dernière cuvée n'est pas franchement de tout repos. 5 heures. Je fais une ronde. J'ai les paupières lourdes. Je me rends compte que le lit 6 a dormi avec ses habits et ses chaussures.
Mars 2005. Lors de notre visite à domicile, où nous avions rencontré Monsieur et Pascal, l'atmosphère fut immédiatement tendue. Monsieur arguant d'un bulletin trimestriel très mauvais, reçu vendredi. Eux de moyenne générale, impertinence, aucune motivation de l'élève, absence, pour affirmer que Pascal n'était qu'une merdeuse, et que c'était fini, il n'en voulait plus. Il voulait la placer n'importe où, en foyer. Dans l'entretien, le doute quant au lien de filiation apparaît comme un argument rejetant supplémentaire. Pascal fut surprise par cet ultimatum. Si leurs relations sont détériorées depuis des années avec une absence de communication, ils ont mis au point une organisation quotidienne qui leur évite tout contact. L'adolescente vit cette annonce de rejet de la maison familiale comme une injustice, affirmant que si sa mère était encore là, Monsieur ne pourrait pas la mettre dehors. Monsieur remettra même en cause la filiation, demandant des tests d'ADN et employant des termes extrêmement rejetants et blessants envers l'adolescente. Les rancunes accumulées s'étalent dans des diatribes heurtées, Monsieur accusant Pascal d'être une manipulatrice, une menteuse, une égoïste qui ne pense qu'à ses copains et a refusé de voir sa mère lors de sa longue hospitalisation avant son décès. Pascal tente, entre hargne et souffrance, d'expliquer qu'elle ne pouvait pas aller voir sa maman régulièrement, que l'état physique, la dégradation de sa mère, lui étaient insupportables. Elle va par ailleurs reprocher à son père de ne pas avoir été un vrai mari, en ne gardant pas sa femme malade à son domicile. Ces affrontements s'inscrivent dans une logique pérennisée, où chacun affirme qu'il y a incompréhension et rejet depuis des années, et ce, bien avant la maladie de madame.
Donc c'est un peu comme un début de roman, effectivement, dans ce sens-là. Les professionnels prennent des notes, écrivent ce qui s'est passé, même s'ils n'ont pas ni les tenants, ni les aboutissants de ce qui s'est passé. C'est au bout de la troisième, quatrième, cinquième visite que peu à peu, le récit prend un sens et où les professionnels vont réécrire et réagencer la première notation de la première visite à domicile. Donc ça devient parfois de véritables biographies familiales.
4 avril 2005. La description de leur quotidien montre une organisation évitant tout contact. Repas pris à table, absence de salutation, absence d'échange. Cette absence de dialogue s'inscrit autant sur l'espace de l'ordinaire que dans l'espace de l'expression des émotions et est complètement désinvestie. Monsieur indique que son dernier geste de tendresse envers sa fille datait de l'âge où sa fille avait 3 ans. Les règles posées à la maison alternent entre une grande rigidité et une certaine tolérance. Ainsi, Pascal n'a pas les clés de chez elle. Ses heures de retour au domicile sont contrôlées. L'argent est également contrôlé. Mais par ailleurs, Pascal bénéficie d'une certaine latitude, notamment quant à ses sorties du samedi soir, où elle part en boîte de nuit. Cette situation ayant alerté les services sociaux, semblait s'être relativement tempérée après le rappel de l'interdiction des violences physiques à monsieur par madame Vantin et l'éducateur lors de leur rencontre à plusieurs reprises. Pascal, comme monsieur, sont arqués dans un rapport de force, où la détresse les renvoie chacun à des positions extrêmes. Pascal refuse l'accueil en foyer, affirmant avec force et larmes que cette maison est aussi la sienne, qu'elle y a ses souvenirs, qu'elle y a passé toute son enfance. Rappelons que madame est décédée en juin 2004, après des mois de détresse physique, due à une tumeur au rein. 18 avril 2005. Pascal peut montrer une certaine capacité à l'émotion, à l'expression. Elle peut profiter d'un dialogue avec l'éducatrice, hors de la présence de son père, pour chercher à élaborer sa place et ses espérances. Mais la position de rejet et de perte d'une certaine autonomie, notamment sur les sorties du week-end, inhérente à une entrée au foyer, par exemple, lui apparaît comme une violence supplémentaire. C'est lui qui va gagner. Père comme fille affirmant qu'ils mènent une guerre. Monsieur pense que Pascal le pousse à bout et affirme qu'hier, il a failli la frapper. Mais que s'il s'est retenu, c'est qu'il a compris que c'est ce que Pascal cherchait.
En lisant un rapport, on voit très bien, on sait très bien qui a écrit le rapport. Les professionnels entre eux, ils ouvrent des dossiers. Ils savent très bien, sans signature, qui a écrit tel ou tel ou tel rapport. Parce qu'ils sentent la prise subjective, la façon de dire la famille, qui est plutôt de tel ordre, de tel type, plus ou moins psychologique, plus ou moins psychanalytique, ou plus ou moins effrayé, ou au contraire rassurante. Enfin bref, il y a plein de tonalités dans ces rapports. Et ces tonalités, ça signe tout autant l'auteur que la famille, évidemment. C'est autant des... Il y a une part d'autoportrait dans les écritures biographiques des familles.
« 27 avril 2007. Visite bilan. Il est difficile d'évaluer la réelle dangerosité de ces passages en mots, tout en sachant qu'une séparation dans l'urgence n'est certainement pas la meilleure solution, vu la position de l'adolescente qui refuse de quitter le domicile et vu le rejet et la violence verbale de monsieur. Se séparer maintenant, se séparer ainsi, ce serait rompre. Père comme fille ont convenu d'une trêve jusqu'à vendredi. Vendredi, l'éducatrice rencontrera, dans un premier temps, Pascal toute seule, puis au domicile, monsieur. Nous avons par ailleurs informé monsieur de l'envoi d'une note d'information à l'aide sociale à l'enfance, en rappelant chacun à ses responsabilités. Nous avons souligné à l'adolescente et à monsieur les effets négatifs d'un placement en urgence. Acte sans réflexion, non tempéré par chacun. Cette proposition a été adoptée, monsieur laissant sa fille sortir voir sa meilleure amie, voisine, jusqu'à 21h30, le soir même. On peut souligner à la fois la souffrance exprimée de l'adolescente, le danger d'évolution dans lequel ses difficultés d'inscription scolaire la placent, la douleur du deuil, l'impétuosité du climat relationnel, affectif, la position affirmée de monsieur de rompre avec Pascal, sont posées dans une ambiance d'escalade et d'urgence préjudiciable à l'évaluation et à l'accompagnement de cette adolescente.
Lisez attentivement l'intégralité de cette notice. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez un doute, demandez. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, à vous. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre. Vous êtes malade. À vous, pas à quelqu'un d'autre. Vous êtes malade. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Vous êtes radicale, timidra, lactose, cellulose monohydratée, stéarate de magnésium, lithium, amidon de maïs, risperidone, méthylphénidine, plus paroxétine, lacalimidine. Attention, chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché. Insomnie, agitation et fatigue, mouvement involontaire de la face, modification de la conscience, embarras au contact des organes génitaux des animaux domestiques, allant jusqu'à l'impuissance. Bon pronostic pour la variété française.
Sous-signé docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles sauf un fauteuil et un lit, que cependant elle reçoit de sa famille, en plus du loyer de son appartement, payé directement au propriétaire, une pension de 200 francs par mois qui serait amplement suffisante pour lui permettre de vivre confortablement, qu'elle passe sa vie complètement enfermée dans son logement et privée d'air, les volets étant fermés hermétiquement, que depuis plusieurs mois elle ne sort plus
dans la rien.
Mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit.
Moi j'ai abouti à un résultat, elle n'a abouti à rien.
Écrite tout récemment à son frère, d'après ses propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin.
Tous les dons merveilleux que la nature lui avait répartis n'ont servi qu'à faire son malheur.
Que se figure être persécutée, que son
état une catastrophe totale. Ma sœur est engloutie.
Sa foi de nourriture est également dangereux pour ses voisins et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé.
Jeudi 15 novembre. Michel a fait une tentative de suicide ce matin. Il a été surpris vers 8h15 à la cuisine, en train de tenter de se couper les veines de l'avant-bras avec un couteau de repas, rond heureusement. Donc le surveiller, c'est-à-dire éviter qu'il aille seul dans la cuisine ou veiller à tenir la porte de la cuisine fermée à clé en mettant la clé hors de sa portée. Et s'il veut y aller quand même, qu'il nous demande ce qu'il veut, boire un verre d'eau par exemple, en le surveillant d'avance, merci. Le signaler au médecin à son arrivée, dans la matinée, merci. 10h, Michel va bien, il est réinstallé dans ses habitudes. Le médecin, pas de réel état dépressif de nature à faire craindre une réelle volonté suicidaire. On peut néanmoins le surveiller, il le verra dans la semaine. Vendredi 16 novembre, nuit, très bonne nuit pour tous. Concernant Monique, elle a bien dormi, avait de petites secousses de temps en temps. Chers collègues, ne vous inquiétez pas de voir une protection sur Monique, car elle devait bouger le moins possible. Je suppose que c'est à cause de cela qu'elle s'est retrouvée avec une couche en début de soirée, et changée par la suite, bien sûr. Le dispositif devant le lit de Monique, c'était pour éviter qu'elle n'aille caresser le sol de trop près. Je présente mes excuses aux responsables du linge, mais je n'ai pas de clé d'ascenseur, donc les sacs ont refusé de bouger. Dommage. Le 25 mai. Ce matin, Daniel a fait pipi dans son pyjama. Cheval pour Hervé et Eric. Repas de Gilles, 7h30, 10h30, 13h30. Daniel a toujours la diarrhée. Christine a des boutons dans le dos. Nathalie a ses règles. Arrivée de Philippe à 10h30, 24 ans. Soins, prévention excar, plus. En fauteuil, soins de bouche à l'exil 2 fois par jour. Change couche, 6h. 13h, 17h, 22h, 1h. Lavement évacuateur une fois par semaine, voire fiche de surveillance celle dans la salle de bain. Repas mixé semi-liquide à la petite cuillère. La maman suggère geste lent, traitement éduquisup, du palac matin, de midi, un soir. Une visite quotidienne de la mère. Elle est contente et nous aussi. Midi, à bien manger, repas mixé donné à la petite cuillère. Dominique sera opéré de sa cataracte le 7 juin au 15-20. Crise d'épilepsie de Daniel vers 11h, à bien récupérer. Son rendez-vous chez le dermato est pris le 10 juin à 15h20. Ne s'est pas souillé après la crise. Ne devait pas avoir d'urine dans la vessie.
Les professionnels sont très investis, subjectivement, dans leur pratique, dans les relations d'aide, dans les relations de prise en charge. Je sais qu'on n'en parle jamais. Je sais qu'il est un peu interdit d'en parler parce que ça fait pas... Ça pourrait discréditer les professionnels. On pourrait penser que les professionnels ne seraient plus des professionnels parce qu'on en montrerait l'aspect subjectif. Mais pas du tout. C'est simplement, au contraire, reconnaître que toute relation d'aide, toute relation de prise en charge, toute relation eu égard à autrui, de soutien à autrui, a une dimension subjective forte qu'il vaut mieux voir et réaliser et rencontrer que de dire non, c'est un acte professionnel pur. Voilà, l'acte professionnel pur, voilà. Non, c'est un acte professionnel, certes, mais qui est investi subjectivement et qui fait, et c'est ça qui fait que les professionnels s'usent très vite dans ces métiers. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, et bien avant, ils sont complètement usés, fatigués, ils n'en peuvent plus. Et pourquoi ils n'en peuvent plus? C'est pas que ce soit en tant que tel l'acte qui soit épuisant. C'est l'investissement subjectif qui est épuisant.
Alors, pour votre rendez-vous, c'est au bout de ce couloir, sur votre gauche. Il y a mi-chemin, vous verrez, c'est à droite. Voilà. Oui, monsieur, c'est pas cabinet. Accueil du parc, bonjour.
10 novembre 62, Madame Adolphine. Respiration. Elle a très vite fait ce qu'elle devait faire. Au début, sa petite respiration était parfaite. Vers la fin, il y avait des fois où elle ne voulait pas faire la petite respiration, mais ça n'a pas duré. Elle respirait vite. Relâchement, assez bon relâchement. Sur la table d'accouchement, elle suivait bien les ordres. Encouragement, elle y croit. 11 novembre 62, Madame Rosa. Comportement de la parturiente, relation parfaite avec infirmière. La jeune parturiente a été très courageuse. Elle n'a pas suivi les cours de psychoprophylaxie et sa respiration et son relâchement ont été parfaits. Elle avait une très grande volonté et aussi une grande confiance personnelle. Elle faisait ce qu'on lui disait et elle est restée calme jusqu'à la fin. Respiration, elle faisait la petite respiration parfaitement bien. Relâchement, la jeune parturiente se relâchait très bien et elle est restée très calme pendant toute la période de dilatation et d'expulsion. Encouragement, elle en a eu besoin, surtout au début. Mon encouragement lui faisait du bien.
Ne respire pas. Respire.
Le cahier de sage-femme, c'est un cahier qui a été trouvé sur un trottoir chez les Brock à Bruxelles. Si mes souvenirs sont bons, c'est 1959. C'est une écriture d'une stagiaire, infirmière accoucheuse, pendant 6 mois à l'hôpital Saint-Louis, et qui apprend son métier, et qui apprend à noter dans les services et dans les relations aux femmes, et lors des accouchements, avant l'accouchement, la préparation à la naissance, etc. Elle prend des notations techniques, énormément techniques, et dans les notations techniques, il y a des appréciations sur... la capacité des femmes à supporter la douleur, hein, puisqu'on est quand même avant 65-70, l'accouchement dit sans douleur. À force de répéter sans douleur, les femmes devaient arriver à se convaincre que c'était réellement sans douleur. C'est une écriture très technique, d'apprentissage, avec beaucoup de coups de stylo rouge corrigés par l'infirmière en chef, responsable de stage. Et dedans, il y a des appréciations sur la couleur sociale des familles, qui sont des familles ouvrières, pauvres, des femmes seules souvent, seules avec leur mère, accompagnées de leur mère ou pas, et qui se demandent comment elles vont faire avec cet enfant qui vient de naître. C'est déjà le 5e, c'est le 6e, c'est le 7e.
15 novembre 62, Madame Julienne. Situation sociale, Madame Julienne, divorcée depuis 2 ans. 6 semaines après le mariage, son mari était parti avec une femme très âgée pour lui. Après un certain temps, il est revenu, mais il est reparti bien vite. Ils sont divorcés. Après le divorce, il est retourné chez elle. Ainsi, elle a eu un second enfant de lui, mais il est resté que 2 jours. Cette fois-ci, il est venu pour 1 mois, ainsi elle a eu son 3e enfant. Les 2 derniers ne sont pas reconnus. Pour le premier, il paye 1500 francs par mois. Elle travaille comme repasseuse. Le 22 décembre 1962. Situation sociale, Madame Paul, veuve, elle a une fille de 16 ans et une autre de 10 ans. Elle a fait 17 avortements et 13 curetages. Cet enfant n'est pas désiré et il n'y aura pas d'allocation familiale car le père est marié. On a surveillé Madame Paul de 7h à 9h. État psychologique très mauvais, elle poussait des cris hystériques. Elle avait peur pour elle, évidemment, 13 curetages. Elle n'a pratiquement plus poussé. Dès que nous l'avons surveillée pour cette respiration, j'aurais aimé trouver le plan d'image pour lui montrer le basculement à faire.
Ce sont comme des journaux privés, professionnels, quoi. Hein, c'est comme on est à l'intérieur des relations professionnelles, on est dans l'entre-nous professionnel. Et donc, dans l'entre-nous professionnel, il y a une certaine intimité, tout simplement, qui se produit. Donc, c'est une caisse de résonance très intéressante, parce que les gens le font parce que c'est à l'abri de tous les regards.
Au fond, aujourd'hui, la main courante, pourquoi elle nous parle ? Parce qu'elle est aussi une forme d'écriture, une forme de narration qui correspond à quelque chose du côté de la littérature contemporaine. Et c'est pour ça aussi qu'on est intéressé à ça. L'historien et l'histoire n'est pas en dehors du récit, que ce soit le récit littéraire, ou le récit cinématographique, ou le récit journalistique. Cette manière d'écrire ce qui se passe avec le fragment, avec avec des silences, comme cela, avec des blancs, avec des hésitations, toute cette fragilité de l'écriture du policier qui note, parfois sous la dictée d'ailleurs de l'habitant, ça c'est très précieux.
Qu'est-ce que c'est que de savoir qu'on est écrit par quelqu'un d'autre ? Voilà, c'est ça. Quel est l'effet sur moi-même de savoir que je suis écrit par telle ou telle institution ? Ce ne sont pas des petites écritures en l'air, c'est... Je pense que ça produit de la norme, voilà, pour le dire très très simplement. Savoir qu'on est écrit, ça produit du contrôle sur soi-même, quoi, en quelque sorte. L'effet, c'est sur l'individu, sur l'individualisation, et ça participe de l'individualisation. Et plus la société est une société d'individualisation, plus elle suscite de l'écriture, plus les individus demandent de l'écriture, et plus ils sont encodés ou enchâssés, encodés c'est trop fort, mais enchâssés par des écritures, tu vois, quoi. Donc les mains courantes, elles sont dans cet entre-deux, quoi. Les mains courantes, elles sont justement, elles viennent du haut, c'est des injonctions, et elles viennent du bas parce qu'elles sont coproduites par le bas. Le bas en réclame, la société d'en bas, les anonymes demandent à être enregistrés, réclament, quoi. Et dans ce sens-là, ce sont des écritures très intéressantes, quoi. Très intéressantes dans le sens que ce sont vraiment des exercices de micro-pouvoir, encore pour le dire à la Michel Foucault, quoi. Ce sont des micro-exercices qui sont presque invisibles, et c'est parce qu'ils sont presque invisibles que ça marche.
Nous vous chargeons de recueillir tous éléments d'information sur Dominique Offal. À la ligne... Offal sera désigné par le numéro de code 51.
Eh bien, document suivant.
Tout de suite, monsieur. J'ai un petit problème.
Il était absolument déchaîné contre la clique royale, je cite. Non, déjà vu.
Et il en a tant fait qu'on a fini par le rappeler à Paris. 51 est à droite, au centre, sa femme. Mais les choses se sont tassées grâce à l'estime qu'on porte à 51 dans certains cercles dirigeants, et notamment dans l'entourage de Michel Debré.
Rapport de notre agent à Rabat du 25 août 72, je lis. Ophal Liliane, épouse d'Ophal Dominique, premier secrétaire à l'ambassade de France à Rabat, c'est elle, est la maîtresse de Marcello Commi, conseiller culturel à l'ambassade d'Italie à Rabat.
Tiens, tiens.
Ils se rencontrent le mardi et le vendredi en début d'après-midi. Sur cette photo, c'est un mardi.
Vous êtes sûr? On dirait plutôt un vendredi.
Oh là là, bon.
À la villa de Commi, 94 allée Césaréo. Il ne semble pas qu'Ophal Dominique soit au courant. En février 73, enfin, est nommé à l'administration centrale des affaires étrangères, chef de bureau, au service de la coopération technique. Pas de documents.
Pas de documents. Et au total, très peu de documents. Le 12 octobre, il y a 8 jours, nous vous demandions, je cite, « recueillir tous éléments d'information sur Dominique Ophal ».
Le 9 janvier 77, directive de Jupiter, je cite, « la plus grande prudence est prescrite dans les opérations concernant la France ».
Là, vous tombez mal. Non, ici vous-même. C'est à déduire.
17 octobre.
Il y a 3 jours. Et ça vient de
Jupiter. Sous prétexte de etc. L'Odense est en train de devenir le fer de lance économique de l'Europe des neuf dans le tiers-monde. 800 milliards de dollars de contrats raflés en un an sous notre nez.
Vous commencez à saisir.
Est-ce qu'on pourrait imaginer d'écrire la vie de quelqu'un uniquement à partir de ses documents, ses mains courantes, ses écritures ordinaires?
On pourrait rêver de ce projet-là, oui. Quelqu'un qui part à la retraite, 60 ans, 65 ans, on essaie de trouver un accord, un deal avec lui sur « nous allons rechercher avec vous toutes les traces d'écriture qui ont traversé votre vie ou que vous avez piétiné, toutes les institutions que vous avez piétinées, y a-t-il des traces d'écriture ? On va les chercher ensemble ». Et on vous propose de collecter, de faire un grand travail de collecte de toutes les formes d'écriture depuis votre naissance, et puis d'essayer de recomposer avec vous, si vous voilà, de recomposer avec tous ces textes-là, un personnage qui serait vous, mais pas vous, évidemment, ce serait vous, mais sans doute seriez-vous étonné des types d'écriture que vous allez trouver dans tel ou tel dossier à l'âge de 18 ans, 25 ans, 37 ans, etc. Et donc, faire ce travail sur le vrai faux, enfin, oui, c'est ça.
5 novembre 77, Minerva Mars. Dès le départ de 51 de Paris, une surveillance rapprochée sera établie sur sa femme, qui sera désignée par le numéro 52. Vous mettrez également en place à Luxembourg un dispositif de surveillance rapprochée. Pour le cas où 51 s'installerait dans la maison laissée vacante par son prédécesseur, vous y installerez un dispositif d'écoute permanente.
Luxembourg, 51 a rejoint son poste le 16 novembre. Il occupe le logement de fonction laissé vacant par son prédécesseur. Conformément à vos instructions, nous avons placé dans la maison un micro-récepteur-émetteur. Je persiste à dire que c'était risqué. Les services français pouvant très bien vérifier les lieux avant l'arrivée de 51. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Il y a à proximité un gros transformateur qui brouille l'émission.
Alors, oui, cet exercice est intéressant parce que c'est là où on découvre que toutes ces écritures sont des écritures faites dans le dos des gens. L'expression est un peu raide, mais c'est quand même bien dans le dos des gens. On écrit toujours dans le dos des gens. C'est très rare qu'on écrive en face à face. Ça arrive de temps en temps au chevet, à l'hôpital, où le médecin est là avec son petit classeur devant les yeux, et il va dire 3 mots et cocher et tout. Mais toutes les infirmières se retournent sur les casiers arrière et vont prendre leur notation dos tourné. Donc toutes ces écritures, on écrit toujours le dos tourné. Toujours.
Très bien. On pourrait presque croire que vous commencez à vous intéresser à cette affaire.
Hélas, les services français s'y intéressent aussi.
Comment savez-vous ?
Par l'agent qui supervise 747. Je vous lis son rapport. Le 1-12-77, en faisant le ménage chez 51... 747 a trouvé des mégots de cigarettes, gitanes et gauloises, dans la poubelle de la maison. 51 ne fume pas. 747 a également constaté que le mobilier avait été bougé.
Bon, et alors ? Contrôle de routine du contre-espionnage français ? Je ne vois pas le problème.
Ah si ? Le micro ?
Celui qui n'avait pas fonctionné ?
Son non-fonctionnement ne l'a pas fait disparaître pour autant.
Vous voulez dire que vous ne l'avez pas retiré ?
Voilà le dossier, je ne trouve pas trace d'une note de service par laquelle vous m'auriez ordonné de retirer l'appareillage d'écoute.
Mais nom de Dieu, ça allait de soi.
Écoutez, je vous en prie. Chaque fois que nous, Mars, nous avons cru devoir prendre l'initiative, vous nous avez tapé sur les doigts en nous rappelant notre rôle d'exécuteur.
2 décembre 77. Origine,
Jupiter. Destinataire, Minerve. Premièrement, je blâme Minerve et ordonne l'arrêt de toute action se rapportant à 51. Deuxièmement, j'ordonne un contrôle de sécurité sur 747.
C'est pour faire une rupture avec le face-à-face de l'interaction, de l'entretien, de la coopération, de la coproduction. L'écriture est une rupture eu égard à la coproduction. C'est-à-dire, je me retire de l'interaction et je suis là avec mon papier et je suis dans le surplomb de ce qui vient de se passer. Donc, écriture dans le dos et donc rupture. Donc, ces écritures, reconstituer la vie de quelqu'un à partir de toutes les écritures qui auraient traversé sa vie, c'est découvrir un tout autre personnage. Enfin, ou découvrir des personnages. Oui, voilà, découvrir des personnages. Donc, ce serait l'envers, probablement l'envers de sa propre biographie orale, on pourrait dire ça, voilà. On pourrait mettre sur la page de gauche sa biographie orale, son récit de vie, et sur la page de droite, tous les personnages qui apparaissent dans les archives écrites. Et dans ce sens-là, l'archive écrite, on peut dire que l'archive écrite est une contre-enquête par rapport à la biographie orale que ce personnage de 65 ans donne de lui-même.
Ferdinand. Quatre soirs par semaine au Crimson Sports Grill à jeter les fondations. Moi, aucun intérêt pour les fondations. Ferdinand. Buveur modéré, quoique régulier, presque jamais ivre. Moi, buveur occasionnel à l'ivresse pitoyable, les mains qui ont un peu la bougeotte pour commencer et trop prompt à me déclarer toujours, mais pire que tout, trop sérieux, trop enclin à vider mon sac comme au temps du lycée. Ferdinand. Ne regrettait jamais rien. Moi, me sentais terriblement coupable, même des plus petites indiscrétions. Mais pour ce qui était de présenter des excuses, j'étais complètement nul. Ferdinand. Avec quelques-uns de nos camarades de classe, fait pour passer sa vie à s'excuser ingénieusement, c'est-à-dire à se disculper pour le réchauffement de la planète, l'école des Amériques, les ravages du libre-échange et la marche inexorable du tout-puissant capital. Moi, n'arrivais même pas à savoir quoi faire le lendemain en croisant une fille auprès de qui je m'étais épanché. Du coup, je faisais semblant de ne pas la voir, ou j'allais à l'autre bout du réfectoire, si bien qu'après quelques mois, durant ma première année, l'éventail des femmes que je n'avais pas rencontrées dans une stupeur alcoolisée rétrécissait de plus en plus, jusqu'à ce que j'en sois réduit à prendre une nouvelle cuite en espérant que quelqu'un fasse la moitié du chemin. Je m'en étais bien sorti avec les filles au lycée, vu mon ardeur à l'étude, et j'étais vexé par cette nouvelle donne. Au début, en gros, je me suis dit « C'est quoi ce bordel ?» Et puis je me suis dit « C'est une blague ?» Et puis j'ai commencé à me dire « Oh non !»
Main courante, écritures ordinaires, avec Arlette Farge et Philippe Artière, historien, et Jean-François Lahaye, sociologue.
Poulet numéro 728120, poulet de Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits.
Extrait des livres Le cours ordinaire des choses, d'Arlette Farge, aux éditions du Seuil, Les Nuits de la main courante, aux éditions Stock, La fabrique des jeunes gens tristes, de Keith Jessen, édition de l'Olivier.
Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales.
Texte lu par Iris Dereux.
16 novembre 62, Madame René. Situation sociale. Madame René est divorcée de son premier mariage et a un garçon de 10 ans. L'enfant est assez vivant et elle avait peur qu'il soit resté seul pendant son séjour, seul avec le père de son deuxième enfant. Madame René fera vraisemblablement une sortie exigée. Relâchement aucun. Sur table d'accouchement, ne savait pas pousser. Elle pousse dans la gorge.
Caroline Ducey.
29 mars. VAD. Première rencontre avec Pascal. Explosif. Question à m'accueil en urgence, menace, et paroles très dures de monsieur sur sa fille. Je mets en place une trêve. 30 mai, exposé au service. Rédaction d'une première note d'information, contact avec le père, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de fusil à la maison. Liaison avec psychologue pour VAD commune le lendemain. 30 juin, VAD commune, impression mitigée de chaud et de froid. Nouvelle trêve avec question de la boîte de nuit, rédaction d'une deuxième note d'information. Demande d'une concertation en vue d'une orientation sur IOE.
Nadia Lochert.
Nuit du 8 décembre 2003. Fin de soirée très calme, mais début de nuit annonçant la couleur. A commencer par Gilles, qui dès une heure râlait. Karine qui s'est endormie très tard à 2 heures. Dominique qui nous a fait son show, chasse et douche. Nathalie qui a fait sauter la barre droite de son lit et qui s'était assise, les jambes au sol. Et qui, le reste de la nuit, a fait les quatre coins de son lit en criant de temps en temps. Alors le pompon, c'est le numéro 1, le cri de l'homme des cavernes que Jean-Pierre a émis. Très impressionnant. Ceci vers 4 heures. Bon, si après ça certains pensent que l'on est payé à dormir...
Alain Chanel.
21 septembre 1950. Se présente à nouveau Madame Feneux. Elle déclare. Mariée depuis le 5 août 1950 à Maurice Feneux, âgé de 21 ans. Ce dernier me frappe et m'insulte presque tous les soirs lorsque je rentre de mon travail. Il découche et reste plusieurs jours sans rentrer au domicile conjugal. Le 3 septembre, après 3 jours d'abandon du domicile conjugal, je l'ai retrouvé rue de Besançon, au bal. Actuellement, il est à la maison, mais je suppose qu'il va recommencer. Je vous fais cette déclaration à toutes fins utiles pour valoir éventuellement pour mon divorce.
Xavier Delcourt,
1er février. Bruit, 24h, 1h, enfant. Ballon, jeu en été devant rez-de-chaussée. Monsieur Bouton ne dort pas. Tournerval, F2, veut une pièce de plus, veut rester au même endroit. Baudelaire, F2, a 5, dont 2 enfants, 23 et 19 ans. Aîné égal, même chambre. Enfant 6 ans plus un bébé, dans même chambre que maman. Assistante sociale, lui ont dit, pas prioritaire malgré 4 enfants dans F2. 14 avril, isolation. Problème de rats, cafards, hygiène et poubelles, vide ordure bouchée, tuyaux d'évacuation WC. Comment réaliser l'isolation? Trous laissés dans laine de verre, les enfants arrachent les fleurs.
Richard Herlin.
7 heures. Dur de les faire sortir du centre. Il y en a ras-le-bol. Fermeture du centre. En fait... 4 bagarres avortées le matin. Ils sont vraiment nerveux et pénibles. 7h30, Lise V, qui n'est jamais contente d'être réveillée le matin, nous traite de connards, d'imbéciles, de drogués, ainsi que tous les permanents. Ce n'est ni la première ni la seconde fois que ce genre d'incident arrive. Du coup, je lui ai repris sa carte. C'est une fille à problème et il en a marre d'être agressée presque tous les matins. À ne pas reprendre si elle se représente.
Et Jérôme Sandelard.
Ferdinand, ne regrettait jamais rien. Moi, me sentais terriblement coupable, même des plus petites indiscrétions. Mais pour ce qui était de présenter des excuses, j'étais complètement nul.
Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet.
Extrait des films « L'homme qui écoute » de François Caillat et Pascal Roussel, « Dossier 51 » de Michel Deville, « Le Nouveau Monde » de Terence Malick, « Camille Claudel » de Bruno Nuten, « Vivement dimanche » de François Truffaut, « L'enfant sauvage » de François Truffaut, « Dans la peau d'un SDF » de Jean-Charles Deniaux.
Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet. Poulet numéro 728 120. Je t'aime. Je pense à toi.
Prise de son. Michel Mestre, mixage Michel Kreis, coordination Anne-Vanessa Prévost. Merci à Jean-Christophe Galen. Une émission proposée par Christophe Deleu et Anna Schmuck.